Bonsoir. Un accord politique a sanctionné la clôture du dialogue hier mardi à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Cet accord prévoit notamment la tenue des élections présidentielles, législatives nationales et législatives provinciales au 29 avril 2018. Entre-temps, l'investiture du gouvernement de transition et la présentation de son programme au Parlement interviendront le 9 novembre 2016. Quelle lecture faire de cet accord? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois Honorable Mouindo Nzangi. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député national de l'opposition et cadre du MSR, parti membre du G7 et du Rassemblement. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, c'est Maître Jean Bouyou, professeur à l'Université de Kinshasa. Il est cadre du PPRD, parti membre de la majorité présidentielle. Bienvenue, Joseph Mabondo. Bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Guimatique. Monsieur Alain Yoni.
Voilà, merci beaucoup. Vous êtes politologue et également l'auteur d'un ouvrage intitulé « La multipolarisation de l'économie congolaise avec le concours des puissances étrangères ». Dans cet ouvrage, vous avez également réfléchi sur le dialogue politique intercongolais. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Les travaux du dialogue national se sont clôturés hier à la cité de l'Union africaine. La signature de l'accord politique entre les parties prenantes a mis fin aux travaux du dialogue lancé depuis le 1er septembre dernier. Berry Franklin Luchaka nous livre les grandes lignes de cet accord.
25, c'est le nombre total des articles répartis sur 12 chapitres contenus dans l'accord politique signé entre la majorité présidentielle et une frange de l'opposition politique, ainsi qu'une partie de la société civile en présence du facilitateur togolais Edem Kodjou. Dans son préambule, les signataires affirment s'être basés sur la constitution congolaise telle que modifiée à ce jour et la résolution 2277 du Conseil de sécurité ayant abouti à cet accord entre les deux parties. Tout ce chapitre traite essentiellement de la question électorale. Parlant du fichier électoral d'abord, toutes les parties ont convenu d'avoir un nouveau fichier électoral et recommandent à la CENI de poursuivre les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en cours, ces opérations qui doivent se clôturer au 31 juillet 2017. Les participants au dialogue ont aussi convenu de commencer par les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales en une seule séquence. Ces élections commenceront précisément 6 mois après la convocation du corps électoral. Et ce corps électoral sera convoqué, à en croire l'article 5 de ce document, le 30 octobre 2017, à partir de la promulgation de la loi sur la répartition des sièges. Le statut de Joseph Kabila est aussi défini dans cet accord. L'article 17 du document révèle que le chef de l'État reste en fonction conformément à la Constitution jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Mais le gouvernement actuel sera remplacé dans les 21 jours qui suivent la signature de cet accord par un nouveau gouvernement d'Union nationale qui sera dirigé par une personnalité issue de l'opposition signataire de ce document. Dans la pratique, il faut attendre le nouveau gouvernement autour du 9 novembre d'après les calculs faits. Pour assurer un suivi de la mise en application de cet accord, le comité de suivi du dialogue CSD en sigle a été créé. L'une de ses missions principales sera d'assurer le suivi du chronogramme de la mise en œuvre de cet accord.
Merci Berry Franklin Luchaka. Maître Jean Bouyou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'Université de Kinshasa, également cadre du PPRD, parti membre de la majorité présidentielle. Maître, sous quel signe vous placez la signature de cet accord?
Cet accord est placé sous la, disons, sous le signe d'un effort national positif dans le sens du dialogue et de la réconciliation nationale dans le sens d'éviter des violences électorales. Et c'est donc, à mon avis, un accord nécessaire pour éviter à la République des incidents qui sont issus du système électoral et qui entraînent beaucoup de contestations, sinon des violences qui vont jusqu'à la mort des personnes. Voilà ce que je peux dire.
Alors, plusieurs auditeurs et internautes nous ont posé la question de savoir quelle est la valeur juridique de cet accord.
Sa valeur n'est pas, disons, juridique au sens qu'il est sanctionné, parce que vous savez que le propre du droit, c'est d'une part des règles qui sont édictées par une autorité publique ou par une communauté publique et qui sont assorties de sanctions. Dans beaucoup de conventions, dans beaucoup d'arrangements, notamment politiques, vous trouvez très peu de moyens de sanctions classiques, c'est-à-dire la justice. Vous trouvez par contre des sanctions sociales, des sanctions politiques, ainsi de suite. Donc on ne peut pas le prendre comme un document normatif au sens du droit pur, c'est-à-dire du droit pénal, du droit civil. Bon, certes, il reste un document que je qualifierais de socio-juridique parce qu'il permet à ceux qui ont été à cette rencontre de délibérer pour eux-mêmes, également de délibérer pour la communauté nationale en vertu du principe qui veut qu'il y ait un dialogue qui a été soutenu par notamment le droit interne, les autorités de décision interne, et il a été soutenu au niveau africain, il a été soutenu au niveau international. En vertu de tout cet ensemble de mécanismes, il est tout à fait compréhensible qu'il y ait justement une valeur à accorder à ce document.
Alors, maître, ces documents qui a une valeur socio-juridique, dites-vous, nous allons suivre la réflexion de cet auditeur qui donne ce qu'il entend, lui, de cet accord.
Oui. Je suis Jabou dans la ville province de Kinshasa. Cet accord, au lieu d'atténuer les tensions existantes, vient semer la confusion dans la scène politique congolaise pour les raisons suivantes. 1. Comment expliquer qu'un compromis politique entre 300 personnes puisse décider de la gestion du pays en écartant la constitution pendant plus d'une année? 2. Comme le Premier ministre viendra de l'opposition, il y aura une nouvelle majorité qui va se créer sans tenir compte du poids politique réel de chacun en violation de l'article 78 de notre constitution.
Maître Jean Bouillon, qu'est-ce que vous lui répondez?
Je vais d'abord dire que ce n'est pas le nombre de personnes qui détermine la valeur d'un accord. Plusieurs accords, nationaux comme internationaux, ne réunissent pas tout le monde à l'accord. La preuve est que toutes les décisions qui sont prises par les parlements nationaux sont prises par des représentants. Et donc la représentation est aussi un mode de participation à l'accord.
Alors que devient la Constitution pendant ce moment?
La Constitution garde sa valeur intacte, et cela est affirmé d'ailleurs dans l'accord. Il est possible qu'il y ait des retouches de certaines dispositions dues à ce qu'on peut appeler, et qui est reconnu dans l'accord, l'intérêt national, l'intérêt supérieur de la nation. Cela est possible. Notamment, par exemple, la question de savoir que devient le principe de majorité affirmé dans la Constitution par rapport à un accord qui accorde la primature
à l'opposition.
Ceci est, en politique, est tout à fait compréhensible. Parce que, en dépit de tout, ce n'est pas le droit qui prévaut. Dans une société, le plus important, c'est la paix. Et le droit est au service de la paix. Tant que la paix est entamée, eh bien, les règles de droit peuvent être changées. Et ceci est très important à comprendre. Le droit n'est qu'une des modalités de régulation sociale. Ce n'est pas l'unique modalité. Il est donc tout à fait normal qu'en cours d'exercice, les situations sociales l'imposant, eh bien qu'on en arrive à des changements de règles de droit. Voilà ce que je veux dire.
Alors, ayant évoqué l'article 78, peut-être que plusieurs auditeurs n'en connaissent pas le contenu, je vais devoir lire quelques extraits. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Alors, Maître Mbouyo, au moment où le Premier ministre vient de l'opposition, est-ce une nouvelle majorité?
Il y a certes une nouvelle majorité parce que l'opposition, comme elle l'a proposé elle-même, quoique cela n'est pas dit dans l'accord, rejoint ce qu'on appelle la majorité parlementaire. Et Dans cette majorité parlementaire, vous trouverez donc la majorité présidentielle qui existe et vous trouverez également la majorité, disons, ceux qui s'ajoutent à la majorité parlementaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'opposition préfère le terme majorité parlementaire à majorité présidentielle, qui a une connotation plus politique que textuelle. Et donc, je crois que c'est à ce niveau qu'on peut situer sa préoccupation.
Alors, ce gouvernement qui sera issu, ce nouveau gouvernement qui sera investi dans 21 jours, le sera-t-il par le comité de suivi, par le Parlement?
Devant qui sera-t-il responsable?
Devant les institutions, parce que l'accord réaffirme l'attachement aux institutions de l'État tel que prévu dans la Constitution, notamment donc le Parlement.
Et est-ce que ce ne serait pas ce gouvernement finalement ce ne serait pas un mariage contre nature des textes j'allais dire un peu escamoté de la Constitution, un peu tout ça?
Non, moi je crois que c'est une donne de résolution de conflits pour privilégier la paix sociale. Prenez l'accord que nous avions discuter avec l'UDPS avant cet accord-ci. Et il avait pratiquement les mêmes dispositions. Il était entendu que, bon, au bout du processus, l'opposition prendrait la direction du gouvernement. Bon, même si l'UDPS ne l'a pas mis en fonction, mais la question était entendue de cette manière-là.
Et donc, pour vous, tout part de la protection de la paix sociale, l'intérêt national.
L'international, absolument, absolument.
Honorable Muhindo Nzangi, comment vous analysez cet accord issu du dialogue?
Oui, d'abord, vous savez, là, vous avez sélectionné certains articles. Moi, je voudrais vraiment revenir dans l'effort de l'accord.
Allez-y, c'est pour ça que
je puisse effectivement démontrer à la face de notre population, à nos auditeurs qui nous écoutent, que cet accord, effectivement, c'est un accord qui, lui-même, va générer beaucoup de conflits. C'est d'abord un accord qui a des contradictions à l'intérieur et je vais essayer de les prouver. L'objectif du dialogue tel qu'il avait été défini, c'était de pouvoir organiser les conditions qui fassent qu'il y ait des élections apaisées dans les délais les plus courts. Et c'est pour une alternance politique. Alors, je vais entrer dans l'accord. Il parle du fichier électoral. C'est le premier chapitre, et l'article 1. On choisit l'option de la refonte du fichier électoral. Alors qu'ils sont dans un impératif de pouvoir avoir un délai le plus court, ils auraient pu choisir l'option de la révision du fichier électoral, puisque nous avons un fichier électoral de 30 millions d'électeurs qui est déjà disponible depuis début 2011, et ils prennent le plaisir de pouvoir refondre les fichiers pour qu'on ne tienne plus compte de ce fichier qui existe, qui a coûté l'argent à la République. La deuxième chose à l'alinéa D de cet article, ils reviennent encore sur l'idée du recensement, puisqu'ils disent que le fichier à court va effectivement permettre à l'ONIP de pouvoir dégager les éléments de l'identification générale de la population congolaise. Donc, le recensement qui avait été rejeté en 2015, ils reviennent avec un petit alinéa que vous ne pouvez pas comprendre, mais ils disent que les opérations à court de révision du fichier électoral vont être effectivement greffées par l'ONIP va pouvoir faire le travail. Donc, les choses pour lesquelles il y a eu mort d'homme dans ce pays, pour qu'il n'y ait pas le recensement, pour qu'on aille directement aux élections, ils ont encore remis ça alors que les commodérateurs du dialogue, c'est lui qui avait appelé aux manifestations de janvier. On parle de ce cas électoral ici. Et c'est très important que les gens lisent l'article 4. Ils disent, voilà, la première séquence, c'est les élections présidentielles, législatives et provinciales. Mais au deuxième alinéa, ils disent, et je vais le lire, les élections locales sont organisées concomitamment avec les trois premières élections, si les moyens techniques et financiers le permettent. En fait, tout ce qu'on nous a raconté qu'on a découplé, on n'a pas découplé. Ce deuxième alinéa vient encore remettre l'élection locale au même niveau de ce cas avec les élections présidentielles, législatives et provinciales. C'est là pour quel objectif? Puisque les élections locales ont encore beaucoup de problèmes à être réglés, notamment les problèmes des dossiers de groupement, notamment les problèmes de l'installation du tribunal de paix dans les territoires, les problèmes de l'installation effective des nouvelles entités comme les communes et les villes qui ont été créées, qui ne sont pas encore réglées, tout ça pour retarder les élections présidentielles. Donc même le délai qu'on nous a donné, puisque la CENI, quand elle va présenter un programme, un chronogramme, elle va intégrer la question des moyens financiers qui vont être trouvés pour les élections locales. Troisièmement, on parle du calendrier électoral. Ici, ils mettent l'enrôlement des électeurs et d'identification comme un processus à part, alors que l'enrôlement fait partie du processus électoral. Quand ils vous disent, voilà, après l'enrôlement, on pourra maintenant, après 30 jours, convoquer l'électorat. Non. Les opérations d'enrôlement font partie des opérations électorales. Donc, on peut, pendant qu'on fait l'enrôlement, aussi procéder à d'autres opérations électorales. On a seulement suivi ce que le président de la République avait dit en Ouganda, qu'effectivement, on publiera un calendrier après l'enrôlement.
Mais la deuxième chose... Honorable Nzangi, je vous redonne la parole. Vous avez suivi Maître Mbuyu qui a dit qu'il fallait plutôt privilégier l'intérêt national, la paix sociale. Est-ce que là, vous ne serez pas en train de chercher les diables dans les détails?
Je suis en train d'aller dans les détails pour que la population comprenne que cet accord a floué. On a seulement floué les gens, mais l'objectif inavoué, je vais le dire après. Alors, on prolonge inutilement le temps. Après l'enrôlement, on dit le 31 juillet, il faut attendre 9 mois pour faire les élections en avril. 9 mois pour attendre quoi? Alors qu'il n'y a rien qui peut justifier qu'après l'enrôlement, on puisse attendre 9 mois. Donc, dans les calendriers, dans les documents, il n'y a pas de calendrier électoral. On a seulement donné des repères et des dates pour les repères. Alors qu'on nous avait promis que le dialogue était organisé pour pouvoir dégager un calendrier consensuel. Il n'existait pas. Quatrième chose, on parle de la période transitoire. À l'article 17, ils disent que les institutions restent en place selon la Constitution. Mais on vient de le discuter tout à l'heure. Entre temps, ils disent que le Premier ministre vient de l'opposition. Sur base de quelle Constitution? C'est là où ils rejoignent ce que le Rassemblement avait déjà dit, que cette période, elle est spéciale. Le fait pour eux d'admettre que l'opposition désigne un Premier ministre en violation de la Constitution, ils acceptent donc que cette période transitoire, c'est une période spéciale. Et nous, on dit, ils doivent avoir le courage d'aller jusqu'au bout.
Et donc pour vous, pour le rassemblement, pour le G7, cet accord ne vient pas résoudre la question.
Cet accord n'a rien résolu. Cet accord n'a rien résolu. Je voudrais, il me restait deux points pour que je les dise très rapidement.
Je vous redonne la parole au prochain tour de table. On vous garde encore dans l'émission. Vous allez évoquer les deux points. Bienvenue, Joseph Mabondo. Vous êtes politologue. Comment vous analysez cet accord?
Je commence d'abord par faire un rappel historique. Comme vous le savez, depuis 1990, lorsque le Charles Mobutu avait institué le multipartisme, jusqu'en 2006, lors des élections démocratiques, les premières, notre pays a connu plus de 10 gouvernements de coalition. Il y a eu plusieurs négociations. Il y a eu le Palais des Marbres 1 avec le gouvernement Tshisekedi et Mongol Diaka. Il y a eu le Palais de Marbre 2, qui a sorti, avec la médiation sénégalaise d'Abdoulaye Wade, qui a sorti le gouvernement Ngun Sar Libone. Il y a eu le conclave de la mouvance présidentielle, qui a sorti le gouvernement Grindois. Et après, nous avons connu le dédoublement institutionnel et constitutionnel. Il y a eu ensuite les concertations du Palais de Marbre, qui a mis toutes les institutions ensemble. Nous connaîtrons donc le gouvernement Kengo 1, avec le HRPT, dirigé par le cardinal Mosengo, et il y a eu ensuite le gouvernement Kengo II, lorsque le cardinal Mosengo avait été éjecté. Enfin, nous connaîtrons la guerre des libérations, et là, dans un dernier sursaut, le maréchal Mobutu était dénommé le gouvernement Tshisekedi une quatrième fois. Ça n'a pas marché, il nommera le général Ikulia, mais l'AFDEL entrera. Et le gouvernement de l'AFDEL était aussi un gouvernement de transition, des coalitions, parce que c'était des forces coalisées, des forces, des alliances, des forces démocratiques. Enfin, il y a eu un dernier gouvernement de coalition, qui est le gouvernement de Sand City. Donc, lorsque les forces de l'AFDEL sont neutralisées, le pays était divisé, ils ont finalement négocié, et nous avons connu donc le gouvernement 1 plus 4. Le constat est que de tous ces gouvernements, plus de 10 en 16 ans, un seul a réussi à organiser les élections. Alors on me demandera pourquoi. Je pense que nous connaissons tous que c'est lorsqu'il y a un gouvernement de coalition, généralement un gouvernement de coalition, c'est un gouvernement de nature faible, et parce que les forces en présence se contrôlent, se surveillent, et n'ont pas confiance l'une envers l'autre. Elles ne se font pas confiance, disons. Et généralement, c'est la partie qui contrôle les attributs du pouvoir qui finit par avaler la partie la plus faible. Alors, le gouvernement de Sand City, le seul qui a réussi, l'a réussi pourquoi aussi? C'est aussi parce que l'une partie, même en étant faible, avait une armée à Kinshasa. Le vice-président Jean-Pierre Bemba. Donc, ils ont organisé des élections. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Immédiatement après, nous savons qu'il y a eu encore une guerre à Kinshasa. Et ensuite, nous connaissons le sort qui a été réservé. Kakuni, disons, le vice-président Jean-Pierre Bemba. Alors, qu'est-ce que le gouvernement actuel, parce que, au lieu de continuer sur cette lancée d'après Sanity, d'organiser les élections à échéance, à intervalles réguliers, nous avons échoué encore. Bien sûr, c'est quand même honteux pour une si grande nation en Afrique d'échouer à tout moment. Toutes ces concertations-là, on nous connaît, et il y a eu même Abba Iwade qui avait traité la carrière politique congolaise d'une place immature. Et tout récemment, nous avons aussi entendu des choses qu'on a dites au niveau international, que les Congolais ont une capacité extraordinaire de nier en public tout ce que vous êtes en public, en cachette. Donc c'est quand même grave, c'est quand même une humiliation pour notre pays. Mais là, ce n'est pas mon problème. Pour aujourd'hui, ici, il faut parler du gouvernement qui est ici, de la coalition ici, parce que là, ce sera aussi un gouvernement de coalition. Donc nous recommençons l'histoire en 1990.
Bienvenue, Joseph Mabondo.
Oui.
Vous faites allusion effectivement à ce gouvernement de cohabitation. Il y a cet auditeur qui réfléchit de la même manière que vous. Nous allons l'écouter.
Isaac Bamporiki de Bukavu au Sud Kivu. Généralement, la cohabitation fonctionne mal en Afrique. Et pour ce qui est du cas issu de cet accord, deux risques sont à craindre. Soit elle sombre dans la conflictualité, comme le cas de Mobutu Tshisekedi au temps de la CNS, soit elle dégénère en un débauchage de nouveaux venus au pouvoir, ébloui par l'appât du gain, en échange du soutien par eux de la non-tenue des élections.
En d'autres termes, ce gouvernement est plutôt un problème qu'une solution.
Bon, moi je dirais que ça dépendra beaucoup plus de la bonne foi de la partie qui contrôle les attributs du pouvoir. C'est-à-dire, comme le Premier ministre sera issu de l'opposition, ce Premier ministre ne va certainement pas contrôler l'armée, les services de sécurité, les services de police et les finances. Donc, si la partie qui contrôle tous ces attributs du pouvoir ne donne pas la facilité au Premier ministre de bien gérer le pays, c'est sûr que ce Premier ministre finira par, après un temps, d'être avalé. Comme c'est le cas entre 90 et 97, avant que le maréchal Mobutu me quitte. Donc ça risque d'être encore une répétition de l'histoire, mais peut-être que cette fois-ci, ils vont réussir à s'entendre. Mais je pense que c'est les mêmes causes produisant les mêmes effets, il y a fort risque que ce gouvernement soit encore avalé, parce que quand je lis l'article 19 de cet accord, on dit d'abord que ce gouvernement insiste du fait que, déjà dans un autre article, on a dit qu'il doit rassembler les moyens pour organiser l'élection, mais on donne encore à ce gouvernement le rôle d'assurer la gratuité dans l'enseignement primaire, le secondaire, de payer la dette extérieure du pays, d'augmenter le traitement des fonctionnaires. Ça, c'est à l'article 19. Donc, si à ce petit gouvernement, ce gouvernement qui n'a que 18 mois, on lui demande de rassembler les gens pour organiser les élections. Merci. On lui demande d'assurer la gratuité de l'enseignement et de payer la dette extérieure, d'augmenter aussi...
Et donc, c'est trop lui demander.
C'est trop lui demander en 18 mois.
Merci. Maître Jean Bouillou, vous avez suivi l'honorable Mouindou Nzangui évoquer un certain nombre d'éléments qui lui font dire que cet accord est conflictuogène, à la limite contient des astuces pour prolonger inutilement le temps.
J'ai apprécié beaucoup l'honorable Mohindo parce que il a voulu réellement qu'on se réfère à des articles de cet accord. Et dans une émission de vulgarisation comme celle-ci, il est effectivement important qu'on lise les articles, que les gens comprennent le contenu, surtout ceux qui n'ont pas le texte. C'est pour ça que je vais me permettre, si vous me donnez un peu de temps, que je lise l'article premier et l'article 2. L'article premier dit ceci. Dans le souci d'assurer l'inclusivité et la crédibilité du processus électoral, de garantir l'universalité des suffrages, et conscient des insuffisances et de l'obsolescence du fichier de 2011, nonobstant une réforme effectuée en 2015, Point virgule. Prenant acte des avis techniques de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, complété par les rapports d'experts, notamment de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation internationale de la francophonie et d'experts nationaux, nous convenons de la constitution d'un nouveau fichier électoral et recommandons à la CENI de poursuivre les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en cours. En vue d'éviter le coût élevé des élections, des révisions répétitives du fichier électoral, ça c'est le paragraphe 2, l'alinéa 2. En vue d'éviter le coût élevé des révisions répétitives du fichier électoral, qui constitue un écueil pour la tenue régulière des scrutins que comprend chaque cycle électoral, nous invitons le gouvernement, à l'issue de l'élaboration du fichier électoral en cours, à tout mettre en œuvre pour permettre à l'Office national d'identification de la population, ONIP en sigle, de constituer un fichier général permanent de la population. De la population de la République démocratique du Congo, d'où procédera à chaque cycle électoral le fichier électoral.
Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Je veux dire par là que l'honorable est inquiet. Il pense que la constitution d'un nouveau fichier va être une difficulté. Et il pense également que la citation de l'ONIP faisait référence à ce que l'ONIP...
Au recensement.
Je dis non. L'ONIP est cité ici uniquement au-delà de ce processus électoral qui est assorti de date, honorable. Il est assorti de date. L'enrôlement a commencé le mois de juillet et l'enrôlement se clôture fin juillet 2017. Il faut bien comprendre cette séquence. Après 2017, on a les enrôlés. Au plus tard, au 30 octobre, on doit avoir finalement, parce qu'il y a des délais de procédure, ceux qui ne sont pas enrôlés peuvent faire recours devant les juridictions appropriées, eh bien, au plus tard, au 30 octobre, une fois qu'on a vidé tous les litiges, les fichiers sont connus, on peut alors commencer, on peut appeler le cycle électoral lui-même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en ce moment-là? Ça veut dire que on a d'abord enrôlé les gens, on a demandé à ceux qui sont mécontents, qui ne sont pas d'accord, de se signaler, de faire des recours devant la CENI et devant la justice. On a clôturé tous les litiges. Maintenant, on dispose du fichier électoral. Mais là, pour aller imprimer ces données-là, pour faire des fiches, il faut que on soit d'accord avec le délai de l'imprimeur. Le délai de l'imprimeur est de 3 mois. Alors, et on ne peut pas écourter ce délai.
Alors, Maître Souffret, que je voudrais être à ce niveau, oui. Il n'y a pas que l'honorable qui a des inquiétudes, il y a des auditeurs aussi. Il y a par exemple Kalegami Rebaozi Kaeredi Djikidi. Le dialogue étant l'arme du sage, je salue l'existence de cet accord. Cependant, je reste sceptique quant à l'application du dit accord, car il y a eu mauvaise volonté manifeste de la part du président Kabila et de sa majorité de respecter la Constitution. Est-ce qu'ils vont respecter l'accord, Maître Mbouyou?
L'accord va être respecté.
Quelles en sont les garanties?
Pour être respecté, je crois qu'on ne peut pas appeler des garanties divines ou mystiques. Ce sont les garanties humaines, la confiance qu'on se fait mutuellement, parce que nous sommes devant un peuple qui nous voit, qui nous attend, qui nous juge, qui va nous censurer aux élections prochaines. Plus nous allons torpiller l'accord et la constitution, plus le peuple va nous écarter du pouvoir. On ne se fait pas cette illusion-là. C'est un accord qui est fait pour, dans une période préélectorale, et la sanction ultime, c'est le refus du peuple de vous élire à nouveau. C'est pourquoi nous avons tout intérêt comme majorité de respecter cet accord.
Alors, honorable Nzangi, il y a Asba Hassani de Kinshasa qui dit « Accord courageux face à l'impasse politique, un accord consensuel était plus qu'important. Si seulement c'est pour un an et demi qu'il faudra pour avoir une alternance politique sans qu'il y ait des morts, alors moi, c'est lui qui dit, je l'accepte, même si nous injurions ses opposants dialoguistes, au moins ils ont pris le courage de négocier. » Honorable Nzangi.
Oui, ils ont pris le courage de négocier et moi je ne les condamne pas. Nous, G7, on ne les condamne pas. Mais on est vraiment estomaqué par le fait qu'ils n'ont pas tenu compte même du minimum.
Qu'est-ce que vous appelez le minimum?
Voilà, j'appelle le minimum. Lisez bien l'accord du début à la fin. Alors que le problème principal que nous avons, qui est à l'origine de la crise, c'est l'alternance, les fêtes pour le président de la République, de ne pas accepter l'alternance et de chercher des moyens détournés pour pouvoir contourner la Constitution. Il n'y a même pas et seulement alternance dans l'accord. Même pas et seulement. Alors, il y a un silence dans l'accord, et je vais vous dire, alors qu'il avait été déjà dit avant, que dans l'accord, les opposants ont dit, ils ont promis au peuple que dans l'accord, ils vont dire clairement que Joseph Kabila a épuisé ses deux mandats constitutionnels et ne peut plus se représenter. Il n'y a pas et seulement, alors que c'est dans le projet de l'accord, ils ont effacé ça. Alors qu'ils avaient dit que pendant la période de transition, on ne procédera ni à une révision constitutionnelle, ni à un référendum. La phrase là, ils l'ont effacée dedans. Elle n'est plus dans la version finale. Alors qu'ils devraient nous donner dans les textes des garanties, puisque les garanties doivent être des garanties qui sont consacrées, dans lesquelles on se dit, voilà, si ça n'arrive pas comme ça, voilà comment on doit le faire. Il n'y a aucune garantie dans cet accord qui vous prouve qu'effectivement, les gens qui ont accepté de violer la Constitution, ils vont cette fois-ci accepter de signer cet accord. Et même dans cet accord-là, on devrait, en principe, parler de la question de la définition. Puisque le président de la République, le 19 décembre, il est hors mandat. Son mandat est terminé. Alors, si on doit accepter qu'il y a une période très courte, c'est pour cela que j'ai cité sur le fichier électoral, très courte pendant laquelle on organise les élections, il ne doit plus rester avec tous ses pouvoirs. Puisqu'il a déjà fini son mandat. C'est lui qui sera désigné président de cette période de transition. Que ce soit de la majorité ou de l'opposition, puisque c'est une négociation, il faut effectivement que ce mandat soit limité. Que dans la limite de ce mandat-là, il ne puisse pas torpiller le processus comme on l'a vu. Mais tout ça, on n'a pas fait. Alors, je parle aussi de la CENI. Si vous avez l'article 19 de cet accord, ils disent effectivement, on doit changer seulement les membres de l'opposition qui sont à la CENI. Mais, interrogez l'opinion, vous avez vu la ville morte aujourd'hui, toute la population respecte et rejette l'accord. Pourquoi? Puisqu'effectivement, la population trouve que la CENI n'est pas indépendante.
Et donc,
les
pour vous,
de la CENI,
l'intention est de tricher.
Au lieu d'avoir le courage de dire que M. Nanga, M. Katitima, qui dirige la CENI aujourd'hui, ils n'ont plus la confiance de la population, puisque la CENI, c'est l'arbitre, c'est la confiance. Ils disent effectivement que c'est M. Kalamba et tous les autres de l'opposition qui doivent être changés, et non ceux qui ont délibérément pris l'option de pouvoir retarder les élections. Je veux vous dire que tout cet accord, si vous le lisez dans les détails, vous allez trouver effectivement que ça a été cousu pour effectivement trouver du temps nécessaire. Le temps juste pour faire un passage à force après le 19, et puis après, ils vont pouvoir organiser autre chose.
Il y a pour vous, honorable Nzangi, cette réaction qui nous vient de Bukavu, Sud Kivu.
La média de Pascal, je les appelle à partir de Bukavu au Sud Kivu. À mon humble avis, la signature de l'accord est salutaire car le peuple est fatigué des agitations politiques du genre. Journée, pigment, marque, carton jaune, carton rouge, coup d'état et conseil. Néanmoins, les signataires devraient veiller à l'applicabilité de ces derniers.
J'ajoute, honorable Nzangi, cette réaction de Mandé Nakolobange Nelson de Wamba qui dit « Nous sommes contents de cet accord qui favorise la paix. Notre Congo a besoin de la paix et non de ceux qui ont envie d'aller à la magistrature suprême sans tenir compte de la paix. » Honorable Nzangi.
Oui, d'abord, cet accord ici ne va pas apporter la paix. Même ceux qui l'ont signé, ils le savent, puisqu'ils ont même dit que voilà, et les gens qui n'ont pas été là ont peut-être donné la possibilité d'être là. Ceux qui eux-mêmes reconnaissent que l'accord est non inclusif. Les acteurs principaux de la vie politique de la République démocratique du Congo, il ne faut pas se voiler la face, n'ont pas participé à cet accord. C'est pour cela que nous, au niveau du G7, si vous avez suivi notre communiqué, nous avons dit, nous pouvons prendre cet accord qui a été fait à la cité de l'OIA comme l'ébauche de travail réellement inclusif qui peut être fait après pour pouvoir amener la paix. Sinon,
entre la nouvelle majorité et le rassemblement.
Entre la nouvelle majorité, le procès l'a dit, qu'effectivement, ceux qui vont accepter d'entrer, ceux qui ont donc accepté de signer cet accord, ils entrent dans la nouvelle majorité parlementaire. Nous voulons que cette nouvelle majorité parlementaire, avec ceux qui ont fait le conclave à l'INET, puisse avoir effectivement un cadre dans lequel les points de vue vont être conciliés. Et bien c'est sûr. Très important, puisque cet accord ici n'apporte pas la paix déjà aujourd'hui dans toute la République. La population a respecté le mot d'ordre du rassemblement pour dire qu'effectivement, cet accord, il ne le considère pas.
Merci. Bienvenue, Joseph Mabondo. Vous avez suivi l'honorable Nzangi qui pense que c'est l'accord de la cité de l'Union africaine est une ébauche qui devra mettre en place ce que le rassemblement appelle le vrai dialogue entre la nouvelle majorité récomposée, reconfigurée et le rassemblement.
Je dirais oui ou non. Oui et non. En fait, si l'histoire doit se répéter, je pense qu'en 18 mois, le gouvernement de transition dirigé par un opposant modéré risque de ne pas atteindre tous les objectifs lui assignés. Donc, quand on va déclarer peut-être qu'il a échoué, on risque de rentrer négocier encore avec l'opposition radicale ou radicalisée, c'est selon. Mais non aussi, parce que si les pouvoirs en place, ceux qui contrôlent les attributs du pouvoir, acceptent de laisser le Premier ministre bien travailler, d'atteindre des objectifs, ça serait une bonne chose. Je crains quand même que si le Premier ministre, ici de l'opposition radicale, atteint cet objectif-là, je pense qu'il risque de s'en vanter, de dire aussi que voilà, vous n'avez pas pu organiser les élections en 5 ans, moi je l'ai fait en 18 mois, et vous savez les conséquences politiques de ça. J'ai souvenir, donc je dirais oui et non, dépend de la bonne foi de ce qu'il a payé.
Alors, le dialogue qui vient de se clôturer à l'Union africaine a connu pratiquement la bénédiction de la communauté internationale. Est-ce que le rassemblement toutes ses composantes, le G7, la dynamique et les autres, est-ce que tous ces regroupements ne seraient-ils pas marginalisés de ce point de vue-là?
Je dirais aussi oui, oui, non, parce que je vous ai cité le nombre de gouvernements que Mobutu avait changé. On avait changé plusieurs premiers ministres qui ont tous travaillé dans l'opposition radicale et puis qui ont pu devenir des opposants modérés. Et après, ils ont tous été avalés par leur propre révolution. Donc, là encore, on ne sait jamais. Aujourd'hui, ça peut paraître comme un échec de leur part. Mais si demain, les objectifs ne sont pas atteints, par exemple, les élections ne sont pas organisées à date, et qu'on n'a pas trouvé, par exemple, l'argent pour organiser cette élection, eh bien, ça risque de tourner. On risque de rentrer encore dire, voilà, ces gens-là avaient raison. Donc, tout dépend de tout. Mais je pense que c'est le pouvoir en place actuellement, ceux qui maîtrisent, ceux qui gèrent les attributs du pouvoir, qui peuvent laisser le Premier ministre, qui sera ici de l'opposition modérée, bien travailler. Est-ce qu'ils le feront? C'est la question.
Alors, plusieurs auditeurs, je le disais tout à l'heure, ont posé la question par rapport à la garantie du respect de cet accord. Ils se disent, les mêmes personnes qui n'ont pas pu respecter la Constitution, est-ce qu'ils vont respecter un simple accord?
Bon, moi je dirais ceci. Si, sincèrement, ils ne respectent pas cet accord, disons, le pouvoir en place, s'ils ne respectent pas cet accord, n'aura probablement que deux options. Je parle vraiment sur le plan politique, scientifique. Deux options. La plus importante sera d'aller négocier avec l'opposition radicale. Lorsqu'ils vont échouer, ils iront négocier avec l'opposition qu'on appelle aujourd'hui radicalisée. Dans le cas contraire, nous risquons de connaître le même scénario. Mobutu a changé plusieurs premiers ministres, ça n'a pas marché, et finalement, la classe politique s'est dit disqualifié au niveau du Kinshasa, nous avons vu surgir du néant le président Laurent Désiré Kabila. Il est venu et il a trouvé un terrain vide, il est passé comme dans du beurre, jusqu'à Kinshasa. Donc je crains fort, il revient vraiment à la majorité actuelle de comprendre que l'histoire ne doit pas se répéter. Sinon, il y aura une troisième voie, ça viendra d'où ça viendra, mais ça viendra.
Alors, dans l'ouvrage dont vous êtes l'auteur, qui est intitulé « La multipolarisation de l'économie congolaise avec le concours des puissances étrangères », vous écrivez une réflexion sur le dialogue politique intercongolais. Vous proposez notamment, vous pensez que le dialogue devrait s'éteindre simplement entre cinq personnalités, le président Joseph Kabila, Monseigneur Mosengo, Moïse Katumbi, Vital Kamerhe. Est-ce qu'on ne sait est-ce qu'on ne reviendrait pas finalement à une telle proposition dans l'avenir?
À mon avis, le président Kabila a beaucoup fait pour le pays et j'aurais souhaité vraiment qu'il soit ce président qui aurait été le père de la démocratie congolaise.
Voilà, disons, j'ai oublié Étienne Tshisekedi parmi les cinq personnalités.
J'aurais vraiment qu'il négocie avec ces quatre personnalités-là. Donc les cinq-là, s'ils avaient négocié sincèrement, le président Kabila serait, il serait réconforté plus fortement dans son pouvoir et il restera vraiment dans l'histoire comme le père de la démocratie. Maintenant, je pense que c'est quand même une victoire partielle, mais avec les cinq-là, ça serait vraiment une victoire exceptionnelle, tant pour lui-même que pour tous les pays.
Merci. Maître Mbuyuya Patrick Mbouli, qui nous écrit de Lubumbashi, qui dit « La signature de cet accord consacre la mort de la démocratie en RDC. Le contenu de celui-ci passe à côté de l'essentiel et ça laisse le vrai problème sans solution. Et ça ne va pas résoudre la crise politique dans ce pays, d'autant plus que le flou plane sur la question du président Kabila, s'il va se représenter ou pas aux prochaines élections, Maître Mbuyuya. »
Oui, merci. Cher ami, d'abord il faut clarifier dans un débat comme ça certains concepts. Je reviens sur ce que le roi Moïndo a dit, que dans l'accord on ne parle pas d'alternance politique. Non, on en parle. On en parle dans le préambule et je veux bien lire ce point, paragraphe 6.
Très rapidement parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps.
Oui, les partis sont déterminés à renforcer l'état de droit par le respect des valeurs de la démocratie, notamment la tolérance, la solidarité, le compromis, l'égalité, les libertés publiques, individuelles et collectives, l'équité, les élections libres et pluralistes, la séparation des pouvoirs, le respect des institutions, le respect de l'état de droit, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le respect des décisions de justice, la soumission aux lois et règlements, la redevabilité, la bonne gouvernance et l'alternance démocratique résultant des élections. Il faut savoir que l'alternance, c'est le passage du pouvoir d'un camp à un autre. Par exemple, de la majorité à l'opposition. Mais cette alternance ne peut venir que des élections. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas croire que parce qu'on a tel parti à gouverner un temps, prochainement, il faut que ce soit l'autre parti. Non, c'est le peuple qui en décide. Il y a des partis qui ont fait 50 ans au pouvoir. Le parti suédois, il a fait 50 ans au pouvoir. Donc, il faut clarifier ça. Ensuite, il faut clarifier la question du mandat du président de la République qui se termine le 19 décembre. La Constitution a réglé cette question. La Cour constitutionnelle a réglé cette question. Et le présent accord règle cette question également. Tous les trois textes disent il reste en fonction jusqu'à son remplacement par un président élu. Troisièmement, il est important également qu'on dise ouvertement la question comment on désigne les membres de la CENI. Les membres de la CENI sont désignés par les partis qui composent la CENI, c'est-à-dire l'opposition, la majorité, la société civile. Et donc c'est chacun qui amène ces gens. Si la majorité ne veut pas changer son délégué, il ne va pas le changer.
Alors M. Mbuyuya, en guise de conclusion, est-ce qu'il y aurait nécessité, selon vous, d'un autre vrai dialogue entre la nouvelle majorité et le rassemblement, en guise de conclusion?
En guise de conclusion, l'accord actuel doit s'appliquer. Mais il reste vrai et indéniable, sinon ce serait un non-sens, qu'un peuple en démocratie reste un peuple en dialogue. Dialogue avec lui-même, dialogue entre peuple et dirigeant, dialogue entre dirigeants eux-mêmes. Le dialogue est un concept permanent qui ne s'arrête pas. Donc ce n'est pas impossible.
Il ne faut pas mystifier.
Il ne faut pas mystifier. Merci. Merci.
Honorable Nzangi, en guise de conclusion, comment vous entrevoyez la suite du processus électoral en RDC après cet accord?
Oui, après cet accord, je crois que c'est, comme je l'ai dit avant, c'est vraiment l'ébauche des travaux qui va être fait. C'est la position de la majorité présidentielle qui vient d'être connue. Et je crois que l'accord, comme on l'a démontré ici, c'est un accord vraiment imparfait. C'est un accord qui est vraiment motivé par le seul souci de gagner le temps pour permettre au président Kabila de pouvoir rester au pouvoir. Mais je voudrais vous dire qu'il faut courir derrière la montre. Le 19 décembre, c'est demain. Et cet accord ne donne aucune garantie de la paix. Merci. Si on veut vraiment qu'il y ait la paix, il faut absolument que les négociations puissent être larges et réellement inclusives. Nous saluons la posture de l'Union européenne qui demande l'ouverture de notre couloir pour pouvoir les négocier. Sinon, le 19 décembre, ça va être sérieux.
Bienvenue Joseph Mabondo, conclusion.
Conclusion est que on ne peut pas écourter la souffrance du peuple en mettant fin au cycle des négociations qui qui ont commencé depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, négociation sur négociation. Vraiment, les politiques, ils ne peuvent pas s'entendre pour mettre fin à ça.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Bonne suite au programme sur la radio de la paix. Au revoir.